On va parler un peu de hockey sur glace maintenant. L'édition 2019 de la draft NHL se déroule actuellement à Vancouver. 217 joueurs de 18 ans sont repêchés par les 31 franchises qui ont déjà rencontré les candidats fin mai à Buffalo lors de camps d'évaluation. Les jeunes hockeyeurs devaient faire face durant leur entretien à 8-10 personnes, au directeur général, au responsable du scouting, à des recruteurs, au staff d'entraîneur, au médecin de l'équipe, à un psychologue du sport, à un responsable RH. Bref, le rendez-vous a de quoi être intimidant tout de même pour un jeune de 18 ans. Alain Thévault a demandé à Romain Ducré, coach mental dans le domaine du sport, ce qu'il pensait de cette formule.
Moi, je suis convaincu que c'est une chose utile, voire même indispensable. On parle souvent, si je fais une comparaison avec le monde professionnel, les compétences professionnelles et techniques de nos jours sont largement insuffisantes. On parle de comment on peut exploiter nos compétences professionnelles et techniques, c'est grâce aux compétences douces, ce qu'on appelle souvent les soft skills en anglais. Donc ce que fait la NHL, c'est absolument très bien, puisqu'ils vont évaluer ces compétences douces qui sont nécessaires, voire même indispensables, afin que les sportifs puissent exploiter à fond leur potentiel technique et tactique.
C'est quand même intimidant pour un jeune. Est-ce qu'on peut réellement déceler ses capacités sportives au travers peut-être de son adolescence, de sa scolarité ?
Bien sûr, c'est déjà des indices qui sont très forts, hein, ce qu'on appelle l'histoire de vie du sportif. Grâce à son histoire de vie, il aura développé d'une façon plutôt inconsciente ses fameuses compétences soft. Mais ces indices ne sont pas suffisants si on veut les évaluer d'une façon la plus objective possible, d'où la nécessité et l'utilité de faire ces rencontres.
Justement, vous arrivez peut-être à expliquer, à analyser, par exemple, un jeune qui a une adolescence difficile, peut-être une séparation de parents, voire une perte, un décès d'un proche. Ça peut être positif, ça peut être négatif en ce qui concerne sa carrière. Est-ce qu'il s'est endurci? Enfin, qu'est-ce qu'on peut vraiment déceler dans ce parcours de vie?
Alors, comme j'ai dit, grâce au parcours de vie, on aura des indices sur ses compétences soft, mais après, avec les entretiens lors de ces rencontres, les mises en situation, ils vont pouvoir objectiver tous ces indices. Et c'est vraiment une très, très bonne chose, puisqu'ils peuvent, par exemple, évaluer la gestion du stress du sportif, mais ils peuvent aussi évaluer quels sont pour ce sportif-là ses facteurs de stress positifs et ses facteurs de stress négatifs dans le monde du sport. Mais ils pourront aussi évaluer comment il gère ses émotions et dans quelle situation. Ils pourront aussi évaluer son degré d'automotivation, comment le sportif arrive à se motiver par lui-même, mais ils pourront aussi évaluer, par exemple, ses capacités introspectives qui sont tellement aussi indispensables dans le monde du sport, etc., etc.
Vous, si vous étiez, par exemple, présent pour une équipe professionnelle de NHL, quels seraient les points, les critères, mais vraiment les points sur lesquels vous seriez très observateur et qui vous semblent vraiment très, très importants, primordiaux?
Bon, tous les contextes sont différents, mais je pense que ce qui est très utile, c'est de regarder aussi quels sont les facteurs de motivation du sportif. On parle souvent que la meilleure motivation pour un sportif, c'est la motivation intrinsèque. Ça veut dire je fais vraiment cette activité pour le plaisir ressenti et un peu moins pour l'aspect financier. Donc, et ça, c'est toutes les choses qu'on peut, par exemple, évaluer lors d'entretiens qui vont en profondeur. Mais je regarderai aussi son degré de persévérance, puisque dans ce monde de performance, la persévérance est un élément clé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je regarderai aussi peut-être les capacités introspectives. Un sportif qui a des bonnes capacités introspectives ne peut que progresser. Un sportif qui a peu de capacités introspectives, sa progression sera évidemment limitée, par exemple. Mais je regarderai aussi quels sont les facteurs de stress positifs, c'est-à-dire qui lui donnent de l'énergie, mais quels sont aussi les facteurs de stress négatifs qui pourraient limiter ses comportements sur la glace.
Il n'y a pas un déséquilibre quand même, un jeune de 17-18 ans face à 8-10 personnes, c'est intimidant, ça fait penser vraiment à un entretien d'embauche.
C'est un entretien d'embauche et c'est intimidant, mais regardez dans le monde professionnel, les apprentis, un apprenti qui veut obtenir une place, il va aussi entre guillemets subir ses entretiens d'embauche. Après, ça dépend tout dans quel état d'esprit ça se fait, parce que ça peut être intimidant, mais je pars du principe que les gens, d'abord, ils vont mettre à l'aise, ils vont créer le lien. Et un sportif, de toute façon, ça sera intimidant, oui, mais s'il veut aller en NHL, il doit savoir aussi gérer ce genre de situation.
Donc c'est vraiment positif, c'est le vrai départ. Ça commence par le draft et juste avant le draft, par ces entretiens.
Exactement, ça commence par là. Donc je trouve l'approche plutôt intéressante.
Et au premier tour de la draft hier soir, les New Jersey Devils, le club des Suisses de Nico Hischier et Mirko Müller, se sont assurés les droits du premier choix du repêchage avec le talentueux américain Jack Hughes. Le finlandais Kaapo Kakko, que l'on a beaucoup vu durant les récents mondiaux, a été choisi en deuxième position par les New York Rangers. Aucun Suisse n'a été repêché au premier tour. Vous avez entendu Romain Ducret s'exprimer sur les camps d'évaluation de NHL. On va retrouver le Fribourgeois pour parler de son métier. La profession de coach mental s'est beaucoup développée ces dernières années. Comment lui-même a-t-il embrassé ce métier il y a une trentaine d'années? On l'écoute.
Je crois très peu au hasard dans la vie. Donc, moi, j'ai toujours été passionné de sport. J'ai commencé le sport très jeune. Et après, quand j'ai fait ma formation en psychologie, évidemment, je me suis dit pourquoi pas faire des spécialisations en psychologie du sport. Et donc, c'est venu tout à fait naturellement.
D'autant plus que vous êtes sportif, footballeur, également montagnard.
Ouais, footballeur. J'étais footballeur quand j'étais très jeune. J'ai adoré le football. Du reste, j'ai arrêté le football très jeune, mais je m'intéresse toujours au monde du football. Dès que je peux voir un match et suivre les principales compétitions à la télévision, je les suis et j'accompagne évidemment aussi dans la psychologie du sport des footballeurs. Mais c'est vrai que après, j'ai plutôt porté mon attention sur le monde de la montagne, puisque ma maman faisait de la montagne et m'a transmis ce virus. Et la montagne, pour moi, c'est une véritable passion.
Justement, en quoi consiste votre travail de coach mental? C'est quand même très complexe, le travail mental.
Le travail consiste à aider le sportif à soigner son bien-être, d'abord, parce que le bien-être du sportif, c'est une source de performance. Et après, à travailler avec le sportif ou les sportifs, quels sont les points qu'ils peuvent améliorer, surtout au niveau du mental?
C'est un travail aussi sous quelle forme de démarche? C'est le sportif qui frappe à votre porte, les clubs, c'est vous qui allez à la rencontre de sportifs?
Alors moi, personnellement, je ne vais pas à la rencontre de sportifs, je ne l'ai jamais fait. Alors là, c'est très variable. Ça peut être quelquefois déclenché par les parents, ça peut être déclenché par la sportive ou le sportif lui-même, ça peut être déclenché par le staff technique ou l'entraîneur. Là, les approches sont très variables.
Donc votre travail consiste surtout à aider le sportif à développer son potentiel, peut-être à dépasser aussi les limites, à gérer des situations de stress.
Tout à fait. Les thèmes principaux, c'est la gestion du stress, c'est la gestion des émotions, c'est la persévérance. Afin que le sportif, on appelle souvent cette notion de flow, ça veut dire qu'il puisse vraiment exploiter au maximum son potentiel.
Comment se déroule en fait votre travail? C'est plus un travail de discussion, d'écoute, de parole, ou ce sont des exercices de respiration, ou comment ça se passe concrètement?
Alors évidemment, que ce soit avec une équipe ou avec une personne individuelle, la première étape consiste à créer le lien, créer un climat de confiance. Donc, comme vous avez dit, matérialisé par l'empathie et l'écoute, etc., etc., que le sportif sente qu'on le comprenne bien. Et après, c'est vraiment faire le point. Qu'est-ce que le sportif doit ou veut travailler? Et après, une fois qu'on a passé ces deux étapes qui sont fondamentales, après, il faut aller le plus rapidement possible sur des exercices qui conviennent à l'équipe ou au sportif.
Donc, humainement, ça doit être très intéressant comme approche. Il y a parfois un feeling. Parfois, il y a des sportifs aussi qui sont plus réticents, qui ne sont pas ouverts peut-être à cet aspect. Justement, c'est quand même très philosophique aussi, la mentalité d'un sportif.
C'est entièrement ça. Et personnellement, je n'irai jamais sur les exercices si je sens, par exemple, que le sportif a été envoyé par son entraîneur et qu'il a dit à son entraîneur qu'il allait avec plaisir. Moi, je vais d'abord regarder que le sportif y trouve du sens par lui-même, donc créer la motivation. Parce que si on n'arrive pas à créer ça, les exercices ne vont pas apporter suffisamment de résultats. Donc ça, c'est une étape fondamentale. Et après, je regarde toujours par rapport à la personnalité du sportif, quel exercice lui convient le mieux. Et après, évidemment, je vais lui demander si ça lui convient.
Vous l'avez dit tout à l'heure, l'enseignement, c'est propre à chaque individu. Même dans les sports collectifs, chaque athlète est différent. Quelle est votre place, par exemple, dans un coaching staff avec l'entraîneur? Comment ça se passe dans la réalité?
On le voit dans toutes les émissions relatives au sport, dans les articles de presse où l'entraîneur dit quelquefois il y a qu'à prendre confiance, vous avez des compétences. Mais le yaka, ça ne fonctionne jamais. Voire même, ça peut être dangereux. Quelquefois, les entraîneurs ont un peu peur. Je le dis qu'on aille un peu dans leur terrain. Mais nous, on ne travaille pas dans leur terrain. On est simplement complémentaires. Et si tous les entraîneurs arrivaient à saisir ceci, en fait, on arriverait à des performances qui seraient meilleures.
C'est difficile de trouver sa place. Là aussi, avec l'entraîneur, il y a une relation de confiance avec le sportif, mais aussi avec l'entraîneur, avec le coaching staff.
Plus il y a une relation de confiance entre les différents intermédiaires et plus les entraîneurs techniques, tactiques, physiques voient l'utilité du mental, plus ça va apporter des éléments positifs au niveau de l'efficacité.
Vous êtes tenu par le secret professionnel, vous travaillez avec des sportifs individuels, aussi parfois avec des équipes, aussi parfois dans des domaines autres que le sport, notamment dans le milieu économique.
Tout à fait. Moi, je suis aussi coach professionnel pour de nombreuses entreprises et organisations publiques. Et finalement, le contexte est différent, mais les sujets qu'on traite sont relativement les mêmes. Qu'on accompagne dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise, on accompagne surtout sur des sujets ayant trait au développement personnel. Donc, les outils sont relativement les mêmes.
Est-ce que peut-être dans le sport, il y a davantage de pression? On dit souvent que la pression, c'est le meilleur ennemi des sportifs.
Alors oui, c'est souvent ce que je dis à des cadres d'entreprise, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a de la pression partout. Mais la différence dans le monde du sport de haut niveau, c'est que la pression, elle est plus forte. Je matérialise ça, une équipe qui perd 4 matchs de suite ou 3, ils sont déjà en crise. Ce qu'on voit un peu moins quand même dans le monde de l'entreprise.
C'est vrai que ce soit dans le milieu économique ou dans le sport, dans ces deux domaines, il y a des résultats à atteindre, des objectifs à atteindre. Par contre, dans le sport, il y a peut-être plus cet aspect émotionnel.
Oui, en plus, il y a cet aspect émotionnel qui vient s'ajouter. Et là, vous parliez de pression. Ça, c'est aussi notre travail, que le sportif trouve sa zone de stress positif et pas qu'il bascule dans une zone de stress négatif. S'il est dans sa zone de stress positif, ça va stimuler la performance. S'il balance un tout petit peu dans la zone du stress négatif, ça va limiter, voire même paralyser ses performances.
C'est aussi votre impression que ça reste tabou, justement, la place des psychologues du sport, ça reste tabou, les gens n'aiment pas trop. Souvent, on peut lire ou on entend des entraîneurs, des dirigeants de club, lorsqu'ils fixent des objectifs sportifs de performance, on doit améliorer l'aspect mental, on doit travailler avec un coach mental, mais ça reste tabou. Ensuite, les sportifs n'aiment pas trop parler ou développer ou dévoiler des secrets.
C'est juste, il y a toujours un peu ce stéréotype, mais il est en train de s'estomper. Les sportifs, des fois, ont peur qu'on pense que s'ils travaillent avec un psychologue du sport, entre guillemets, ils sont malades. C'est absolument pas de la thérapie, c'est du développement personnel. Et ça, c'est aussi notre travail, lorsqu'on côtoie le sportif, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer cette confiance et d'éliminer un peu ces tabous, s'ils existent encore.
Mais ça doit prendre quand même du temps, justement, pour avoir la confiance. Il faut plusieurs séances, il faut faire connaissance. À un moment donné, il faut se dévoiler, s'ouvrir. Donc, c'est une forme de séduction.
Oui, bien sûr, comme dans toute situation de communication, mais avec l'expérience. C'est vrai que ça pourrait paraître long, toutes ces étapes, mais ces étapes sont assez rapides. Et moi, personnellement, c'est ma stratégie, c'est d'aller le plus rapidement possible sur du concret et sur des exercices, et que le sportif ou l'équipe devient le plus rapidement autonome avec ces exercices. Et après, en fait, ils n'ont plus besoin de nous.
Romain Ducret, quels sont les effets sur la performance d'un entraînement spécifiquement ciblé sur le mental? Des fois, on dit par exemple que le succès, le 90% du succès, c'est la préparation. Quel est peut-être le pourcentage du mental?
Les chiffres sont toujours très généraux, mais les études qui ont été faites depuis des décennies démontrent que l'aspect mental, c'est minimum 40% de la performance. Maintenant, je relativise toujours ce chiffre, mais c'est vrai que le mental, de toute façon, a une importance énorme.
Et chaque athlète, en fait, est différent aussi.
Alors, chaque athlète est différent, chaque athlète a des capacités mentales, mais même l'athlète qui aurait des prédispositions pour le mental, s'il fait quelques exercices supplémentaires, il va encore progresser dans son aspect mental, donc maximiser ses performances et son bien-être.
Il y a beaucoup de coachs mentaux qui travaillent avec des clubs, avec des sportifs en Suisse, ou vous êtes combien? C'est une profession reconnue?
C'est une profession reconnue, et vous parlez de sujets un peu tabous. Quand on regarde maintenant dans le monde du sport, il y a de moins en moins de recours puisque la majorité des entraîneurs maîtrisent très bien les techniques d'entraînement, la tactique. Ce qui fait la différence maintenant, c'est le mental, d'où le développement du mental.
Le sportif vient chez vous, vous parlez, vous développez des techniques. Ensuite, votre relation, est-ce que vous allez le voir à l'œuvre? Est-ce que vous débriefez? Comment ça se passe?
Notre code de déontologie veut qu'on rende les athlètes autonomes et qu'on ne crée pas un degré de dépendance. Donc ça veut dire que lorsqu'on a bien compris la chose à développer et qu'on peut donner des exercices et que les exercices conviennent, on débriefe les résultats, On regarde très rapidement si les exercices ont porté des résultats ou pas. Et après, en cas de besoin, on peut rajouter des exercices. Et dès que le sportif les maîtrise bien, et ça va très rapidement, il est autonome.
Quelles sont les techniques pour performer, pour améliorer, par exemple, ses performances sportives avec la technique, le coaching mental? Si je vous dis la relaxation, la sophrologie, la visualisation, l'hypnose, la fixation d'objectifs, c'est quand même très vaste.
C'est très vaste, d'où la nécessité de vraiment bien cerner la personnalité du sportif pour lui proposer des outils qui lui conviennent.
Moralité de cette heure d'émission, si vous vous entourez de spécialistes, que ce soit pour la tête ou pour les chaussures, eh bien vous augmenterez vos chances de performer.